RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
Le Tour de France assommé une nouvelle fois cet après-midi par un certain Chris Froome. Certes, il n'a pas remporté la 11e étape, ce premier grand chrono individuel du Tour de France, mais Chris Froome a une nouvelle fois marqué les esprits. On en parle dans un instant avec toute la Dream Team. Les adversaires de Froome doivent-ils désormais se concentrer sur la deuxième place? On attend vos appels au 32-16 si vous voulez venir interpeller notre Dream Team. Et puis évidemment, pour débuter cette tranche, nous allons retrouver Jean-Louis Tour pour la deuxième édition du Journal des Sports. Salut Jean-Louis.
Salut Christophe. Salut
on va donc se concentrer sur Chris Froome, plus et que oui. Jamais porteur de ce maillot jaune. Il est vraiment bien installé sur ses épaules.
Oh oui, 3 minutes 25 sur Valverde, 3,54 sur Contador ou encore 8,32 sur Andy Schleck. Voilà quelques-uns des écarts au classement général ce soir après le contre-la-montre, remporté pourtant par Tony Martin, l'Allemand, mais au cours duquel le patron au Mont-Saint-Michel s'est encore un peu plus affirmé, c'est Christopher Froome.
Je suis très heureux avec ça que j'avais fait aujourd'hui. Mon course aujourd'hui, c'était pas avec Tony Martin qui a gagné l'étape, c'était plus avec les autres coureurs sur classement général. Ça, c'était l'objectif et quand même, je suis très content pour Tony qui a gagné l'étape aujourd'hui. Il a démontré pourquoi il est champion du monde sur contre-la-montre.
Christopher Froome avec Pierre-Yves Leroux, l'un des envoyés spéciaux d'RMC Sport sur la route du Tour. On revient sur ce tour de force du coureur de la Sky dans l'Intégral Sport dans un instant avec Christophe Cessieux jusqu'à 20h. Un petit séisme dans le quotidien du PSG. Leonardo a remis sa démission aux dirigeants du club à la mi-journée. Plusieurs incompréhensions, notamment peut-être sur le choix de Laurent Blanc, peuvent expliquer cette décision. Zoumana Camara, le défenseur du PSG, était l'invité de l'Intégral Sport tout à l'heure. Il ne s'en fait pas une montagne.
Ça va être un petit changement maintenant. Le club va prendre la décision de savoir s'il le remplace ou pas. Mais après ça, vous savez, nous, on n'est pas consulté dans ce genre de décision. C'est vrai qu'on était proche de lui, mais dans tous les clubs, c'est comme ça. On est de passage, on essaie de laisser une trace, de laisser quelque chose de positif. Lui, il arrive au début du projet, il a réussi à ramener pas mal de grands joueurs. Et puis, il y a peut-être quelqu'un ou pas qui prendra la relève. Mais le club continuera et aura toujours les mêmes objectifs.
Côté organisation, Leonardo restera tout de même jusqu'à la fin de la période des transferts. Pour la suite, Jean-Claude Blanc pourrait voir ses prérogatives élargies. Alors qu'en pensent les supporters? Camille Gelpi a promené son micro devant la boutique du PSG.
Ah, ça me surprend, oui. Tant pis, hein. Il a fait du beau boulot. Le joueur de grand niveau qu'il a été a apporté un bon relationnel. Ça a permis peut-être que certains joueurs viennent à Paris.
Ben, moi, j'ai l'impression qu'en France, on ne l'aime pas parce qu'il a dit certaines vérités. C'est peut-être le problème qu'on a aussi en France, c'est les personnes qui viennent de l'étranger, ben, ça passe pas forcément bien.
Quelques supporters au micro RMC Sport de Camille Gelpi. On commence à s'y habituer. Pour vibrer avec une équipe de France de foot, il y a soit les U20, on y reviendra, ou l'équipe de France féminine. Cette année, elles veulent franchir la quatrième au championnat d'Europe, à savoir oublier les deux quatrièmes places des Jeux Olympiques et des derniers mondiaux et terminer plus haut dans la hiérarchie. Les Françaises débuteront vendredi face à la Russie. La compétition, elle, a débuté à 18h. Ça se passe en Suède où nous attend Nicolas Jamin. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
On devine une certaine effervescence dans ce pays de foot féminin.
Oui, c'est vrai qu'il est difficile pour les Suédois de passer à côté de l'événement. Hein, dans les aéroports, dans les gares, dans les 7 villes qui vont accueillir ce 11e Euro féminin, des photos immenses avec deux joueuses de chaque sélection, partout également les drapeaux des 12 pays représentés. Mais au moment où je vous parle évidemment, Jean-Louis, eh bien c'est surtout à Göteborg que ça se passe, que l'ambiance monte d'un cran, du jaune et du bleu partout les couleurs de la Suède, car la sélection, dans moins d'une heure et demie, va affronter le voisin, le rival danois. Près de 40 000 personnes en tribune à Göteborg, c'est dire à quel point eh bien, ici on aime non seulement cette équipe, mais aussi le foot décliné au féminin. 120 000 billets vendus déjà alors que la compétition démarre seulement aujourd'hui. Les Françaises débuteront vendredi, on le rappelle, face à la Russie. Elles ne trouveront, elles, en revanche, que 4 à 5 000 spectateurs dans leur ville au nord de Göteborg.
Et on suivra l'ensemble de cette compétition avec vous, Nicolas Jamin, envoyé spécial RMC Sport en Suède.
Suivez l'équipe de France féminine avec les pneus Continental, partenaire officiel.
Enfin, toujours en football, rappelons que l'équipe de France des moins de 20 ans s'est qualifiée pour la finale du Mondial. Vous avez pu le vivre en direct sur RMC. Succès 2-1 face au Ghana. La finale, ce sera sur RMC, évidemment, samedi à partir de 20h, soit face à l'Uruguay, soit face à l'Irak. Un mot de tennis pour vous signaler la victoire facile de Gaël Monfils face à l'Allemand Florian Mayer. C'était en 8e de finale du tournoi de Stuttgart, un stade où Jérémy Chardy a été éliminé par un autre Allemand, Berreur. 19h12 sur RMC, l'heure passe presque aussi vite que Christopher Froome. C'est donc le temps de retrouver Christophe Cessieux pour l'intégral tour.
Et effectivement, et tout son orchestre, Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon qui sont à mes côtés pour évidemment revenir sur le coup de force, le tour de force d'un certain Chris Froome qui n'a pas remporté l'étape aujourd'hui, mais qui a une nouvelle fois marqué les esprits. Les adversaires de Froome doivent-ils désormais se concentrer sur la deuxième place? On accueille tout d'abord la Dream Team, emmenée par le sémillant druide international, j'ai nommé Cyril Guimard. Bonsoir mon cher Cyril.
Bonsoir.
Luc Leblanc, qui s'est aujourd'hui mué en directeur sportif derrière Sylvain Chavanel, qui a vécu la course. Ça va, Lucho?
Oui, tout à fait.
C'était impressionnant, hein, c'est toujours impressionnant d'être derrière.
Oui, mais surtout quand on voyait les pointes de 90 km/h dans les descentes, c'était assez impressionnant à l'arrière.
Très bien. Thierry Bourguignon, lui, était tranquillement dans son fauteuil pour suivre la 11e étape du Tour de France. Il est avec nous, comme d'habitude. Salut Thierry.
Bonsoir, messieurs. Mais pas dans son fauteuil.
Pas dans son fauteuil, non, non. Dans son canapé.
Dans sa voiture.
Dans sa voiture. Très bien, tu nous as écoutés. Alors, tu as écouté donc tout ce qu'on a dit. Bah, tiens,
toutes
tu nous as écoutés.
Ce que vous aviez dit.
Écoute ça. C'était donc tout à l'heure l'arrivée de cette 11e étape et le sacre de Chris Froome, enfin, le sacre de Tony Martin et la prise de pouvoir un peu plus affirmée de Chris Froome. Que la flèche jaune y passait déjà depuis bonne lurette sous la flamme rouge indiquant le dernier kilomètre. Il ne reste plus que 500 mètres, même pas à franchir pour notre ami Chris Froome qui va de plus en plus vite et qui va abattre sans doute le temps de Tony Martin dans quelques instants. On a évidemment l'œil rivé sur les chronomètres, Fred.
Ça va se jouer à rien puisqu'au premier point intermédiaire, il ne comptait qu'une seconde d'avance sur Tony Martin. Deux secondes à 11 km de l'arrivée. Comment a fini Christopher Froome qui n'a plus que 5 secondes pour en terminer? Sans doute sera-t-il battu par Tony Martin? Ça va vraiment être touchy pour Christopher Froome qui va être battu pour une dizaine de secondes. Apparemment, il a levé le pied sur la fin ou payé départ supersonique.
11 secondes de retard.
Il est tombé sur plus fort, plus puissant, plus rouleur que lui. Tony Martin remporte à 28 ans sa deuxième étape sur le Tour de France.
RMC Intégral Tour.
La victoire de Tony Martin, donc le spécialiste de l'effort solitaire, lui qui, rappelons-le, est champion du monde, qui avait terminé médaille d'argent l'année dernière aux Jeux de Londres dans ce même exercice et qui, en début de Tour de France, a bien failli abandonner à la suite d'une chute. Je sais pas si vous avez vu la photo de Tony Martin, le dos et les fesses de Tony Martin. Il ne reste plus beaucoup de peau dans toute la face antérieure et pourtant, eh bien aujourd'hui, il a montré qu'il restait un formidable rouleur. Il s'impose dans cette étape avec 12 secondes d'avance sur Christopher Froome et ensuite, c'est ensuite que les écarts sont importants puisque Chris Froome a vraiment semé la concurrence aujourd'hui, Cyril. Tous les autres sont à plus d'une minute, voire deux minutes plus exactement. Je crois que j'avais noté Mollema à 1,53, Valverde à 2 minutes, Contador à 2,03, Perrault à 2,10 ou encore Cadel Evans à 2,18, sans parler de Andy Schleck qui lui est complètement aux pâquerettes, sinon aux fraises. Alors, le débat évidemment de ce soir, les adversaires de Froome doivent-ils désormais se concentrer sur la deuxième place? Parce que la première, franchement, mis à part un incident, un saut de chaîne, une chute dans un ravin, une benne qui se renverse au passage de Chris Froome, on voit mal comment il pourrait perdre le Tour de France.
Bien, sur ce que l'on a vu sur les deux étapes pyrénéennes et puis ce que l'on a vu donc sur cette étape contre la montre, je ne vois pas très bien où ses adversaires pourront le déstabiliser. Je ne pense pas que ce soit dans la montée sèche du Mont Ventoux. Deux jours après, il y a encore le contre-la-montre de Embrun, où là, il risque encore de prendre, de faire des écarts, c'est même évident. Parce qu'on s'est rendu compte que l'opposition, finalement, n'avait pas aussi de consistance que ce que l'on pouvait supposer au départ du Tour. Alors on parlait beaucoup de Contador, personnellement j'étais un petit peu sceptique, puis on s'aperçoit que l'homme qui est le plus fort dans l'opposition c'est Valverde qui a repris la compétition l'an dernier après un arrêt de 2 ans et qui n'a jamais retrouvé, comme Contador d'ailleurs, son véritable niveau après son retour. Rappelez-vous, en 2008-2009 il gagnait le Tour d'Espagne.
Pas retrouvé son niveau, mais deuxième du Tour de France aujourd'hui, c'est quand même un bon niveau, non?
C'est un bon niveau, mais n'oubliez pas qu'il
n'a jamais été en mesure de gagner gagné le Tour de France, Valverde.
Oui, il a quand même gagné le Tour d'Espagne, il a gagné deux fois le Critérium du Dauphiné, Liège-Bastogne-Liège, il a un palmarès, mais ça c'était avant. Et on se rend compte que eh bien, l'opposition, même si elle paraissait riche, n'est pas aussi, aussi virulente qu'elle l'était. Et quand elle pouvait l'être, elle ne l'a pas été lorsque Froome s'est retrouvé seul, où il a couru, c'est vrai, avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'intelligence, parce qu'il était aussi sûr de sa force et que de toute façon, on n'allait pas lui prendre 5 ou 6 minutes. Mais ses adversaires, ce jour-là, ont déjà capitulé, puisqu'il courait déjà pour la deuxième place. Donc, pour revenir au débat, oui, les adversaires de Chris Froome courent aujourd'hui pour la deuxième et troisième place du podium.
C'est bien, on est à mi-tour, comme ça, Lucho de courir déjà pour la deuxième ou la troisième place. Non, c'est un peu tristonné, ça. Mais bon, c'est important de terminer sur le podium.
C'est triste, mais bon, les autres l'ont bien voulu aussi. Hein. Ils avaient l'occasion de pouvoir peut-être renverser le tour il y a quelques jours dans la dernière étape des Pyrénéennes. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait, comme le dit Cyril. Mais on est en train de se tourner maintenant vers la dernière partie du tour en voyant les autres favoris, les autres leaders se batailler pour la deuxième place. Et Froome va se friser les moustaches dans les prochains jours.
Thierry, tu veux pas nous remonter le moral, toi ? Je sais pas, de ton canapé à Avignon, là ?
Eh ben non, parce que dès le départ, j'ai l'impression qu'au départ du tour, ils savaient qu'ils jouaient.
On nous aura menti, on nous aurait menti avant le départ du tour. On nous aurait menti.
La première étape des Pyrénées. Ils ont
pourquoi on en a fait des tonnes comme ça sur Froome, il y a une vraie adversité, il y a Contador qui va être au niveau, il y a Valverde, il y a Andy Schleck, il y a Cadel Evans, c'est incroyable, un plateau magique. Mais non, le plateau il est là, le plateau c'est un plateau froid aujourd'hui.
Attention, et Christophe, et tous ceux que tu viens de citer, ils se tiennent dans très peu de temps à quelques
pour la deuxième place, ils sont bien.
Mais oui, mais c'est Froome qui est au-dessus des autres. Voilà, c'est tout. Les autres, on a vu de suite, dès la deuxième étape des Pyrénées, que déjà ils avaient choisi leur camp, ils jouaient la deuxième place parce que il y avait une moto qui était Froome et les autres en vélo moteur. Et voilà. Et donc, contraint et forcé de jouer à deuxième place. Et on l'a vu, avec Valverde. Bon, le problème, c'est que Valverde, tu disais, il est deuxième au général, mais il a quoi ? Il a 10 secondes. Il a 12 secondes sur Mollema. Il a guerre plus sur Contador, Kruziger.
Ah non, mais ils sont 6 en 1 minute.
Dimanche, Valverde a joué la deuxième place, mais il va la perdre. J'en suis persuadé.
Bon, en tous les cas, ça va nous faire un beau suspense pour la deuxième place. Tiens, on va écouter justement Alejandro Valverde pour savoir ce qu'il pense de tout ça. Est-ce qu'il faut jouer le podium ? Est-ce qu'il faut jouer la deuxième place ? Ou est-ce qu'il faut, pourquoi pas, rêver d'une victoire sur le Tour de France ? Alejandro Valverde.
C'est sûr que perdre encore 2 minutes sur Chris Froome, c'est vraiment beaucoup. Mais je pense que ce qui est sûr maintenant, c'est qu'il y a Froome et les autres, comme moi, qui vont lutter pour le podium. Mais bon, je dois me satisfaire de ça. On peut lui reprendre un peu de temps, mais on a vu dans les Pyrénées que même tout seul, il tenait bon. Il est vraiment très fort et ça va être trop compliqué.
Ça va être trop compliqué, nous dit
Valverde. Ils n'ont même pas conscience d'avoir fait une connerie dimanche. Mais c'est grave.
Oui, enfin, ils ont conscience qu'ils sont battus, surtout. Hein. C'est surtout ça, ce soir.
Mais c'est dommage. Ouais. C'est dommage, parce que comme ça, on n'y arrivera pas.
Oui, non, mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure dans le direct. C'est vrai qu'on aurait aimé assister à des attaques. Je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose, vu la supériorité de Chris Froome, mais au moins, on en aurait eu le cœur-net. Là, on n'en a même pas le cœur-net. Tiens, Christian nous appelle au 32-16. Christian qui voulait nous parler de Froome et de ses adversaires. Christian, les adversaires de Froome doivent se contenter de la deuxième place, ils doivent lutter pour la deuxième place aujourd'hui, pour la victoire c'est fini.
Oui, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Je suis content de vous parler depuis la Savoie. Écoutez, moi j'ai été épaté d'un point de vue sportif par la performance de Chris Froome, qui semble dominer de la tête et des épaules cette compétition, le Tour de France. Quant à dire qu'il a gagné, je ne sais pas vraiment, parce que il me semble que son équipe n'est pas à son niveau. Alors pourra-t-il tout seul arriver aux Champs-Élysées dans un fauteuil ? C'est la question que je me pose. Peut-être aura-t-il un coup de moins bien dans les côtes sévères de Ventoux, de l'Alpe d'Huez. Et voilà. voilà quoi, ce n'est plus son équipe, ce n'est plus le train bleu de l'US Postal, ce n'est plus le, la Banesto d'Indurain, c'est tout à fait différent. Et tout seul, je sais pas, je me pose la question.
Bon, on en parlait hier soir, c'était le thème de notre débat, est-ce qu'il peut gagner sans, sans équipe ou sans équipe très forte. On a vu qu'aujourd'hui une partie de son équipe s'était refait un peu la santé, notamment Porte, hein, Richie Porte, qui termine quatrième de l'étape, hein, c'est pas mal oui, pour quelqu'un qui était mourant il y a trois jours dans les Pyrénées.
Oui, mais, ouais, mais... Son équipe a été durement touchée par les chutes, il faut quand même le dire, et que là progressivement, eh bien tout le monde est en train de revenir à son meilleur niveau, et je ne suis pas certain, d'autant que je pense qu'ils vont quand même, qu'ils devront, et ils l'ont vraisemblablement fait, tirer les enseignements de l'étape de Bagnères de Bigorre. Parce que je pense qu'ils ont été un peu
Cyril,
trop...
quand on a 3 minutes 25 d'avance au général, est-ce qu'on court pas différemment de...
Mais ils vont devoir courir différemment et pas faire ce qu'ils ont fait dans le Porté d'Aspet et dans le Col de Mante, où ils se sont littéralement grillés. Et là, ils ont été trop gourmands. Mon avis, ils ont voulu la faire comme l'an dernier, parce que tout le monde était au top l'an dernier. Et il y avait en plus Froome qui était quand même équipier, qui a fait 2 du tour. Donc, ils ont voulu faire la même chose, sauf que les coureurs n'étaient pas au niveau. Il y en a un qui a abandonné. Il y en a deux qui traînaient leur misère, et pas n'importe lesquels, Geraint Thomas et Stannard. Et puis derrière, un ou deux qui ne sont pas bien, Kenoff qui tombe, et Richie Porte qui est pendu. Donc derrière, il ne restait plus que Boasson Hagen, qui lui avait mal digéré aussi le départ. Donc, ils vont tirer les enseignements de cela. Et en les tirant, maintenant qu'ils ont quand même 4 minutes d'avance, on peut dire entre 4 et 6 minutes d'avance sur les suivants immédiats jusqu'à la 10e place, ils n'ont pas à s'énerver, ils n'ont pas à paniquer, qu'ils restent groupés et ils rentreront toujours à un moment ou à un autre. Et même s'ils perdaient une minute, il faut savoir que c'est par 2 minutes qu'ils ont d'écart d'avance théorique. Il y a le Ventoux, ils vont quand même pas lui reprendre du temps, et dans le prochain contre-la-montre, ils vont en perdre. Donc c'est pas aujourd'hui, c'est pas 4 minutes d'avance qu'il a, c'est à peu près 7. Donc on n'a pas à paniquer quand on a 7 minutes d'avance. Ouais. Et je peux vous dire que personnellement, avec les écarts et ce qui reste à faire, si j'étais à la place de notre ami Nicolas Portal, je serais pas trop inquiet, même s'il ne faut jamais mésestimer l'opposition.
Très bien. Oui. Thierry, non,
je m'interroge toujours sur l'attitude de Porte.
Ouais.
Richie Porte fait le chrono à bloc.
Qui va parler, c'est ça?
Pourquoi se met-il à fond pour un chrono alors qu'il y a un maillot à défendre? Sont-ils persuadés que Christopher Froome se défendra tout seul? J'ai l'impression que comme l'erreur qu'il a fait dans les Pyrénées, il l'a reconduit. Je ne sais pas ce que
Nicolas,
Chris, enfin bref.
RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France. Christophe Cessieux.
Toujours au pied du Mont-Saint-Michel, à l'issue de cette 11e journée du Tour de France, qui a donc vu aujourd'hui Tony Martin, l'Allemand, s'imposer dans le premier contre-la-montre individuel de ce Tour. Il s'impose avec 12 secondes d'avance sur Chris Froome. Chris Froome qui sème la concurrence, puisqu'il est désormais ce soir leader de ce Tour de France, avec 3 minutes 25 d'avance sur son premier dauphin, l'Espagnol Valverde. 3:37 sur Mollema, 3:54 sur Contador. Les autres sont encore un peu plus loin. Et le premier Français se nomme Jean-Christophe Perrault. Il est ce soir 10e. 5 minutes 39 du maillot jaune du Tour de France. Tiens, si vous voulez nous écouter sur RMC, si vous voulez suivre les étapes tous les jours entre 15h et 18h et entre 14h et 18h, même lors des étapes de montagne, une seule solution, il y a le transistor évidemment, la radio, votre autoradio, mais il y a aussi l'appli RMC Sport, et là vous pouvez nous écouter au sommet des montagnes, au bord de la plage, bref, partout. Allez, nous revenons à nos débats. Alberto Contador battu aujourd'hui, Alberto Contador tout comme Cadel Evans et Andy Schleck, Cyril, ils sont très loin. Cadel Evans, je l'ai même pas cité dans les chronos, mais là il est arrivé très très loin. Et puis sans parler de Andy Schleck qui est complètement largué, et au général il est à plus de 6 minutes, je crois. Bref, le débat est simple: Contador, Evans ou Schleck, qui sont tous les trois des anciens vainqueurs du Tour de France, sont-ils des hommes du passé ou ont-ils encore une chance à l'avenir de remporter un Tour de France ou de jouer un rôle principal. On va commencer avec Lucho. Tiens, tu vas nous donner ton avis là-dessus. Contador, Schleck, Evans, homme du passé ou homme toujours du présent?
C'est une génération qui est en train de se retirer petit à petit parce qu'on se rend compte que les Schleck, Contador, Evans ne sont plus les mêmes depuis il y a quelques années.
Schleck n'est pas très vieux non plus.
Oui, mais Schleck n'est pas très vieux, mais bon, il est un ton en dessous. Alors, voir si l'année prochaine, il va se remettre en question une bonne fois pour toutes et puis reviser le classement général du Tour de France. Mais en attendant, quand tu regardes les Contador, Evans et consorts, même Valverde, même s'il est deuxième au classement général, il y a une page qui se tourne et il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver tout doucement avec Kreuziger, Mollema, Tendam peut-être aussi, qui tournent autour des 26, 27 ans.
Kwiatkowski
aussi. Donc voilà, il y a une petite génération qui est en train d'arriver, mais il leur faut le temps de faire leur preuve. D'accord. Encore. Mais voilà, ils sont en train d'effacer petit à petit.
Pour les autres, c'est fini. Pour les autres, c'est fini. Génération. Cyril, c'est vrai que depuis le début de ce tour, tu nous dis, ouais, Contador, et tu nous l'as dit tout au long de l'année, hein, tu n'étais pas du tout convaincu par les résultats de Contador. Ça se confirme malheureusement pour lui sur le début de ce Tour de France. Il n'est plus au niveau d'avant sa suspension. De là à dire que c'est un homme du passé, c'est peut-être aller un peu vite en besogne.
Je pense quand même que c'est un homme du passé au niveau des grands exploits sportifs. Il ne refera jamais ce qu'on l'a vu faire, c'est-à-dire monter l'école aussi vite, avoir des capacités d'accélération tous les 500 mètres. Ça, c'est terminé. Il faut se rééduquer à courir, on va dire, au vitel. Et c'est vrai qu'un certain nombre de coureurs qui ont été, et c'est pour ça que les coureurs de plus de 30 ans, qui ont été un petit peu dans la génération où ça brille collaient pas mal, ont du mal aujourd'hui à se surpasser et donc ils sont toujours présents, c'est vrai, parce qu'il y a du métier, il y a du professionnalisme aussi derrière, il y a aussi des équipiers qui font le travail, mais ils n'ont plus ce petit quelque chose qui fait qu'ils étaient capables de faire mieux et maintenant ils ne peuvent plus faire la différence. Alors c'est vrai pour Valverde qui, ceci dit, marche et pratiquement à son meilleur niveau qu'il a été sur le Tour de France.
Dans les grands tours,
mais il sera jamais mieux qu'il est là. Donc il ne peut que régresser. Cadel Evans, qui lui, arrive du VTT. Bon, je crois que ses grands coups sont faits. Il a gagné le Tour il y a 2 ans. Et il arrive aussi à 37, 38 ans. Bon, là, il n'y aura pas de miracle. Donc Cadel Evans, c'est fini. Reste le cas, entre guillemets, ou avec un point d'interrogation, un point d'exclamation, reste le cas Andy Schleck, qui a remontré des belles choses par rapport à ce qu'il est. Ce qu'on pensait qu'il était capable de faire, il a fait beaucoup mieux. Il faut, lui, qu'il retrouve suffisamment de jours de compétition. Il faut qu'il retrouve la motivation, Cyril. Cette motivation qu'il a un petit peu retrouvée sur ce Tour de France. Mais le seul qui peut encore revenir à un très bon niveau, c'est effectivement lui. Sauf que il n'avance pas contre la montre. Et que pour gagner le Tour de France, il faut avancer contre la montre. Et qu'on le reverra, à mon avis, faire des grands numéros dans les grandes étapes de montagne. Mais pour gagner le Tour, je pense qu'on peut faire une croix dessus. Quoi.
Très bien. Thierry, tu partages la même analyse que Cyril. Trois hommes du passé, hommes qui vont disparaître petit à petit des palmarès du Tour de France.
De toute façon, Contador, Valverde, 31-33, c'est l'année... du moins, c'est les grandes années au bricolage, Cyril le disait. Bon, ils ont été pris tous les deux, ils reviennent après suspension, mais ils reviennent beaucoup moins bien. Bon, après... on voit que la jeunesse a du mal à percer quand même, hein, puisque Kreuziger, Mollema...
Kreuziger n'est pas très jeune. Non plus.
Mollema, 27 ans.
Mollema, 27, 28, 27, c'est des joueurs, 27,
Kreuziger, 28 ans. Kreuziger, 27. Mmh. On a quand même des gars d'un certain âge dans les 10 premières places. Et on n'a pas la lueur d'un jeune
Kwiatkowski,
premier.
Kwiatkowski, 7e du Tour de France.
Oui.
7e, 4'44.
On a Peter Sagan quand même qui fait 17e, c'est quand même à noter, hein, 17e de l'étape aussi, Peter
oui,
Sagan.
Oui, non, mais bon, c'est chrono, c'est un bon rouleur aussi. C'est un bon sprinter, ça reste quand même un gars qui arrive à se surpasser. Mais la Cadel Evans, moi je dis qu'il est. C'est l'ancienne génération, hein, même s'il est arrivé tard dans le vélo, Cyril l'a dit.
Cadel Evans, c'est fini. Hein.
Cadel Evans, oui. Déjà,
on le disait
dernière,
déjà
on
l'an dernier. Hein,
l'an dernier, on sentait qu'il était au
fond. Mais c'est un garçon qui s'accroche.
Mais Andy, moi, je le vois pas. Oui, comme dit Cyril, faire des numéros sur une journée ou deux. Mais sur le général, prendre 6 minutes sur une étape de chrono de 32 km,
c'est
impossible. Ouais. Même s'il progresse un peu, il aura toujours les 3 minutes dans la tête.
Très bien. Christophe nous appelle au 32-16, justement. Il voulait intervenir sur ce sujet. Bonsoir, Christophe.
Bonsoir.
Bon, alors, homme du passé, ces trois-là, est-ce qu'ils ont encore un avenir rayonnant dans le Tour de France ?
Je ne sais pas si je peux me permettre, parce que le dopage, c'est toujours tabou. Mais pour moi, Valverde et Contador, à l'heure actuelle, sont clean.
Oui.
Je ne sais pas si vous entendez ce que je veux dire. Mm-hmm. Mais...
On espère bien et on est persuadé qu'ils le sont aussi parce que je ne sais pas si vous voyez la batterie et les outils dont on dispose pour dépister. D'ailleurs, la preuve, ils sont tombés. Non, aujourd'hui, ils sont clean, ça c'est clair.
Voilà, moi pour moi, ils sont clean. Mais maintenant, avec l'avancée dans le dopage, pour moi, un gars comme Froome, on saura dans 3-4 ans, comme je dirais sans tardiste, qu'il n'est pas forcément clean. C'est ça le problème. Et encore une fois, il n'y aura pas de vainqueur pour le 100e Tour de France et c'est ce qui me déçoit un petit peu.
Ouais, enfin, il faut faire attention.
Jeter le discrédit sur la personne. Jusqu'à présent, Froome a fait deuxième du chrono. On peut dire aussi que le vainqueur du chrono est aussi positif. Donc, non, ça va trop vite. C'est le raccourci est un peu rapide.
Oui.
Après, c'est vrai. On s'est tous interrogés là-dessus. Ouais. Voilà, c'est tout.
Mais est-ce qu'un jour on va éviter le problème du dopage
et se passer
on l'évitera pas. On n'a pas eu le débat hier soir, on va pas y revenir constamment. Chris Froome aujourd'hui a réalisé une belle performance. Pour l'instant, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qu'il y a et on ne sait pas s'il y aura quelque chose.
De toute façon, il est contrôlé tous les jours.
Oui, mais bon, Lance Armstrong aussi,
c'est les autres outils qui les bloquent, c'est pas les contrôles en tant que tels. Le contrôle pipi à l'arrivée, c'est un des outils, il y a beaucoup plus puissant que ça dans le passeport biologique, les contrôles inopinés, la localisation. Vous savez, c'est pas évident de
tricher. Et puis autour des courses, il y a quand même la tenaille de la police.
Oui, en
aussi.
Plus.
Oui. On le dit toujours, hein, ça. Ouais.
Très bien. Bon, en tous les cas, on a beaucoup abordé ce thème
En conclusion, aujourd'hui, on ne peut pas douter de Froome.
Voilà.
Oui.
Souhaitons qu'on ne soit pas déçus dans 10 ans ou dans 5 ans.
Parce que là, messieurs, aujourd'hui, on ne peut pas.
Alors là, messieurs, je vous jetterai des pierres.
Tu seras à la retraite.
Tu
seras à la retraite.
J'amène tous mes potes. Hein.
Alors je vous jetterai. Non, vous savez ce qui s'est passé quand même aujourd'hui pour ce pauvre Mark Cavendish.
Non.
On lui a jeté du pipi dessus.
C'est minable. C'est franchement une attitude minable de la part des spectateurs. Quand on n'aime pas quelqu'un, on n'a pas jeté de l'urine sur les personnes ou des cailloux ou quoi que ce soit.
Nous sommes tout à fait d'accord, mais
Dans un monde parfait, effectivement, Thierry, ce serait ça. Hein.
Mais bon, il faut quand même dire qu'il fait quand même tout. Il fait quand même tout pour se prendre les colibets à longueur de journée.
Attends, mince. Non, Cyril,
est-ce que tu as vu cette vidéo qui doit être d'ailleurs sur le site d'RMC Sport hier soir, à son bus, interrogé par des journalistes britanniques qui disaient, alors, est-ce que tu as commis une faute dans le sprint? Est-ce que tu as mis un coup de tête? Est-ce que tu as mis un coup d'épaule? Au bout d'un moment, il s'est énervé, il a arraché le magnétophone d'un journaliste, il l'a jeté dans le car. Parce que tu trouves que ça c'est bien, par exemple. Et tu trouves que le comportement qu'il a avec tout le monde,
il touche
aujourd'hui les dividendes de son comportement, Cavendish.
Mais vous pouvez cracher sur tout le monde.
On ne va pas cautionner ce genre de choses, Thierry. C'est scandaleux. Et je demande à. Mais c'est pas la première fois sur le Tour de France. Cyril. Rappelons-nous, ce terrible coup de poing au foie qui avait été asséné à Eddy Merckx, c'était quoi, dans les années 70?
Oui, dans la montée.
Clous qui étaient jetés sous les roues des coureurs
l'an dernier.
C'est pas nouveau. Alors aujourd'hui.
Non, la connerie humaine, on peut pas la stopper.
Non, c'est pas. Tiens, écoutez justement à ce propos de Tom Stiles, qui est l'un des directeurs sportifs de Mark Cavendish, revenir sur cette affaire. Lui, évidemment, est navré de ce qui se passe et ne comprend pas le comportement de certains spectateurs. On l'écoute, Tom Stills.
Ça, c'est une chose du cyclisme qu'on n'a pas habitué. C'est toujours gentil, les supporters sont toujours pour tout le monde. Et j'espère que ce n'est pas un début, qu'on n'a pas vraiment besoin de ça dans le cyclisme. Ça passe, c'est un sport très dur. Il y a des choses qui passent, qui sont vraiment dures sur la route. C'est une grande bataille, mais laisse les batailles entre les coureurs.
Voilà, on laisse la bataille entre les coureurs. Donc, carton rouge aux spectateurs qui ont insulté et arrosé ce pauvre Mark Cavendish, et carton jaune quand même à Mark Cavendish pour son comportement hier, à la fois dans le sprint et à la fois avec les spectateurs.
Christophe, voilà. Je te rappelle que Mocassin a eu le même problème dans un sprint au Dauphiné, et dès qu'il a franchi la ligne, il a pété le nez à celui qui s'était relevé, qui avait failli le planter. Parce que c'est franchement dégueulasse aussi de gêner l'adversaire comme ils le font, au risque d'envoyer tout le monde par terre.
Ouais. On a revu encore les images avec Cyril tout à l'heure, et franchement, c'est Villers qui gêne. Hein. Moi, je.
Bah excuse-moi, il s'est relevé, il l'a dit, j'arrête de pédaler.
On le voit jeter
un coup d'œil derrière pour voir qui gêne.
Thierry. Tu regarderas ne serait-ce qu'une photo dans le journal L'Équipe et tu verras où est la trajectoire. La photo, elle est monstrueuse.
Et tu fais parler les photos comme tu veux. T'as vu la vidéo, les photos, c'est pas la même chose.
Cavendish, il avait la place de passer.
Cavendish, il a toujours la place, mais il a été gêné. Non,
on va pas refaire le débat d'hier parce que c'était le sprint.
Il y a les torts partagés. L'autre, il a été puni aussi. La prochaine fois, il va se relever gentiment.
T'étais moins énervé hier soir. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui.
T'as pas vendu
il a mangé du lion. Il a mangé du lion.
N'aie pas peur. N'aie pas peur. Allez. Les vélos look se vendent toujours aussi bien.
Voilà la pub. Bravo.
Et justement, tu m'oublies pas. Hein.
RMC Intégral Sport spécial Tour de France. Christophe Cessieux.
Jusqu'à 20h30, nous revenons évidemment sur cette 11e étape du Tour de France. Rendez-vous très important aujourd'hui. C'était le premier contre-la-montre individuel et il a marqué les esprits avec notamment ce nouveau coup de marteau asséné par Chris Froome à tous ses adversaires. Il est ce soir en tête avec 3 minutes 25 d'avance sur son premier dauphin. Et nous allons parier maintenant sur RMC et revenir sur les paris que nous avions fait hier soir sur cette 11e étape. On accueille Benji.
Les paris RMC. Tour de France.
Benjamin Ramager est avec nous comme tous les soirs, l'homme des paris, le roi des coteurs, le roi des parieurs. Salut Benji.
Salut messieurs.
Alors, il y avait deux hommes hier soir, en gros, sur lesquels parier. Effectivement, ils sont pas très loin l'un de l'autre. 12 secondes d'écart seulement, Benji, en faveur de Tony Martin. Alors, qui avait joué Chris Froome hier soir hein?
Alors, monsieur Luc Leperson et mademoiselle Virginie Fulpin.
D'accord.
Tu avais joué Tony Martin, tout comme Cyril Guimard et Bourgui. Ça donne quand même des grosses conséquences, Christophe, au niveau du classement, puisque tu es désormais le seul en positif. Tout le monde est en négatif désormais, même Luc Leblanc qui est passé sous la barre.
Ça fait plaisir, il retrouve sa place.
Ça te fait plaisir que je gagne.
Tu es à moins 4 euros. L'autre chose, c'est le prix d'un sandwich. Attention.
Non, ça va encore.
Bah, et moi, j'ai marqué des points quand même aujourd'hui.
Oui, mais tu es toujours. Ah oui, d'ailleurs, tu es revenu à 5 points seulement du maillot vert de Luc Leblanc. Lucho, fais attention, le druide est dans ta roue.
Je suis loin là, de Christophe, le mec qui me suce la roue là, depuis quelques temps.
Tu es à moins 11 euros et Christophe est à plus 19. Donc.
Ah ouais, quand même.
Mais donc,
je ne
parie plus avant lui.
Tu vas suivre mes conseils maintenant.
Hein, non, mais n'aie pas peur, Cyril. T'as vu comme il est dans la roue et il ne prend plus aucun risque.
Je ne vais pas perdre mon maillot vert.
Mais c'est comme ça qu'il se retrouve, leader.
Et bah exactement. Ouais. Je suis le roi de la stratégie, mon gars.
Nous, par contre, on est obligé d'en prendre.
Bah oui,
parce que sinon, on fait comme les Espagnols.
C'est une stratégie de rat, comme on dit dans le métier.
Alors, Benji, explique-nous pour demain.
Alors, Benji, ouais, parce que là, le Lucho, il est trop énervé. Là, il est battu.
Alors, on laisse parier être premier.
Benji, d'abord, tu vas nous donner les principaux favoris de cette 12e étape. Donc, demain, 218 km quand même, entre Fougères et Tours. Tours, c'est quand même l'endroit préféré des sprinteurs, la classique Paris-Tours. Oui. Même si l'arrivée ne sera pas avenue Gramont demain, avenue de Gramont.
Elle fait que 450 mètres, la ligne droite, là.
Ouais, oui, elle, c'est visu, mais bon. Ouais.
Bon, en tous les cas, il n'y a pas une bosse, c'est plat comme le dos de la main. Donc là, si les sprinteurs ne s'imposent pas demain, c'est à n'y plus rien comprendre. Benji.
Ouais, ils sont favoris, évidemment, les sprinteurs, mais c'est beaucoup plus serré que d'habitude. Pour la première fois depuis le début du tour, Cavendish a une cote supérieure à 2, 2,50. 2,50, Greipel 3,30 et Kittel à 3,90, à 2,50 pour une fois. D'habitude, je ne le joue pas à 1,60, mais là, à 2,50, je suis obligé de prendre Mark Cavendish.
Oui, oui, oui. Oui, oui, ben je vais te suivre moi aussi, tu vois. Voilà. Ben non, mais je prends pas de risque. Attends, Cavendish, il est énervé. On lui a jeté
de l'urine
dessus. Il a arraché les magnétophones. Il va être énervé demain, mais il va être énervé, tu vas voir. Il va tous les bouffer, Cavendish, demain. Voilà.
Je pense que Kittel va se relever, lui.
Ouais, tu crois? Alors, Thierry, justement, Kittel?
Non.
Allez, vas-y, prends des risques.
Greipel. Oui, parce que si je veux revenir sur toi, bien je suis sûr. Obligé de prendre des risques.
Enfin là, faut que tu joues des plus grosses cotes, ouais, Thierry, si tu veux revenir sur Christophe.
T'appelles ça prendre des risques.
Faut que tu joues Sagan à 12 et là tu pourras revenir.
Non, Christophe.
Oui.
50 à 50.
Christophe, il est à 50, exactement.
Eh ben oui, non, mais quand même. Il faudrait que ça se casse la gueule.
Attends, je suis sûr que les coureurs nous écoutent si tu dis des choses pareilles.
Mais oui, mais il y a que
mais Christophe, il écoute souvent les paris.
Très bien, messieurs, rapidement, Lucho.
T'as joué
rapidement, je t'ai dit, rapidement, ça veut dire que t'as 10 secondes. T'as 10 secondes, autrement, tu n'as pas de pari.
Vas-y, fais le décompte.
Moi, je vais jouer parce que. Je vais jouer. Bon, alors, je vais aller très vite. Kittel
pour la passe de 3. Ouais, Marcel, 2 et 3.
Bah ouais, Lucho. Moi, je vais jouer. Je vais jouer. Greipel.
Voilà,
oh non, bah tu vois, merde. Pas comme moi.
Voilà, Greipel comme toi. Virginie, je sais pas si elle est là.
Non, mais Virginie, elle m'a dit qu'elle jouait Mark Cavendish, évidemment. Bah oui, elle a un contrat avec l'Angleterre.
Très bien, parfait, on verra ça demain. Merci, Benji.
À demain.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Et pour finir, on va se demander ce qu'il y aura demain dans les pages cyclisme du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire sur ce Tour de France. J'accueille Harold Marchetti, rédacteur en chef du Parisien. Salut Harold.
Bonjour.
Bon, alors demain, j'imagine que vous allez revenir sur la domination de Chris Froome, même s'il n'a pas remporté l'étape. Mais en tous les cas, il a donné un sacré coup de marteau à tous ses adversaires aujourd'hui.
Mais, comme dirait Rohan, il avait déjà mis une bosse après l'étape de montagne. Hein, je crois qu'il a mis la deuxième. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu ça au monde de Chris Froome. Donc c'est ce qu'on va développer demain pour montrer que maintenant, après, selon la formule consacrée, sauf accident ou maladie, je ne vois pas comment il peut ne pas gagner ce Tour de France.
Mais oui, évidemment, c'est ce qu'on disait dans notre débat tout à l'heure. Je crois aussi, Harold, que vous revenez sur Valverde et Contador, des hommes qu'on a qualifiés d'hommes du passé du Tour de France il y a quelques instants, qui sont les deux grands battus du jour, même si Valverde est toujours deuxième au général. Hein.
Alors, ce qui est symptomatique chez Contador, c'est qu'il n'a plus brillé dans un exercice chronométré depuis, je dirais, son retour. Donc on va pas polémiquer, mais enfin ça reste quand même songeur. Et puis Valverde, lui, est tout content. Autant Contador faisait quand même la gueule à l'arrivée, autant Valverde, lui, se contente. Et je pense qu'il signerait dès demain pour une deuxième place à Paris.
Voilà, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Oui, je vise le podium maintenant parce que l'autre est trop fort. Et puis quand même Cocorico. Enfin, c'est un petit Cocorico, mais un Cocorico quand même, Harold, avec un portrait de Jean-Christophe Perrault, JC pour les intimes, premier Français au général, dixième donc de ce classement général.
Alors, le bon côté effectivement, c'est que il a grappillé 4 places au bénéfice du contre-la-montre. On savait qu'il roulait plutôt pas mal, donc c'est pas forcément une surprise. Je dirais le mauvais côté des choses, malgré tout, c'est qu'il a 36 ans. Donc incarner l'avenir du cyclisme français à 36 ans, ça reste quand même son joueur là aussi.
Ouais. Très bien, donc ce sera à lire demain dès l'aube, hein, dans
demain
le Parisien.
Demain dès l'aube, je partirai, comme dit Victor Hugo.
Ouais. Voilà, très bien. Merci Harold, bonne soirée. On te retrouve évidemment tous les mercredis et tous les vendredis pour le sommaire de ce qu'il y aura dans le Parisien aujourd'hui en France. Le lendemain de l'étape, on va accueillir tout de suite Virginie Fulpin. Je pense qu'elle est là.
Oh, elle est là.
Elle est là,
bien entendu.
Bon, ça va Virginie, tout va bien?
Tout va bien.
Je te confie les clés du camion. Et
Luc Leblanc et Thierry Bourguignon,
voilà,
tous les
chauffeur du camion.
Salut à tous les deux.
Un petit clin d'œil à Chavanel et à Roy.
Évidemment.
7e, 8e du chrono, c'est quand même pas mal.
Mais
c'est
on va en parler jusqu'à 20h30 avec les auditeurs d'RMC au 32-16 qui ont des questions pour vous sur ce Tour de France 2013, qui ont des remarques à faire également. Et puis le 32-16 toujours après 20h30 puisque nous ouvrirons une page football après la démission de Leonardo. Jean-Michel Moutier, ancien directeur sportif du PSG, sera notre invité. Vous lui posez aussi toutes vos questions. Et puis Mohamed Bouafsi, un de nos spécialistes du Paris Saint-Germain, sera avec nous en studio. À tout de suite.